Chapitre 80. Samedi 13 août 1994. Une douleur sourde. Clotilde est coincée dans un cauchemar dont elle voudrait sortir. Elle compte. 1, 2, 3, et je me réveille. Et toujours cette chanson de Francis Cabrel qui passe en boucle sur toutes les radios en ce moment, qui lui prend la tête, même dans son sommeil. Pas la peine d'être plus précis. Cette histoire est déjà finie. On en ferait autant, si c'était à refaire. On est tout simplement, simplement, un samedi soir sur la terre. 1, 2, 3, je me réveille et j'ai 10 ans. Je suis la princesse de mes parents, leur fille unique. Maman a préparé un petit déjeuner dans la véranda. Le ciel est bleu. Notre vie ressemble à une pub où tout le monde est parfait, à commencer par moi. Je suis blonde et la fourrure de mes pantoufles mauves à paillettes me réchauffe les pieds. Je suis en CM2. Je suis amoureuse du garçon là-bas. Celui qui était assis au deuxième rang aux côtés de Nina Beau. Il s'appelle Étienne Beaulieu. Je mets un peu de rose sur mes joues et du brillant à lèvres pour qu'il me voie. Mais il ne regarde que ses deux amis, un ver de terre et une mistonne. Toujours collé à eux. J'attendrai. Un jour, il posera les yeux sur moi. 1, 2, 3, je me réveille. Mes pieds, j'ai très froid. Ils sont gelés. Une couche de neige sur mon lit. À présent, la douleur est si vive qu'elle étouffe un cri. Clotilde ouvre les yeux. Elle y est parvenue. 1, 2, 3, je me réveille. Fini la chanson. Dans la vie, la vraie vie, il fait encore nuit. Elle peut se rendormir avant de prendre son service à la pizzeria. Plus que 15 jours. Elle n'en peut plus de slalomer entre les tables. Hier, pendant qu'elle servait une 4 fromages, une reine et des lasagnes, la boniche des Beaulieu a dû trouver sa lettre dans la boîte, la ramasser et la poser sur le bureau dans la chambre d'Étienne. Pendant que la sainte famille fait bronzette dans le sud, une bombe à retardement dans la chambre du fils. Un obus qui leur pètera la gueule dans 10 jours, lorsqu'ils rentreront. Clotilde rit toute seule, transpire, a de plus en plus mal. C'est encore ce foutu cauchemar qui lui tord les tripes. Elle a cru qu'elle était réveillée, mais elle est prisonnière de son sommeil. 1, 2, 3, et je me réveille. Pourtant, elle pense tout haut, la lettre sur le bureau d'Étienne. Combien de fois Étienne et elle se sont-ils retrouvés dans cette chambre, ce lit? Combien de fois s'y est-elle rhabillée? Ramassant ses fringues éparpillées, jetées à la va-vite avant l'amour, les cherchant comme le petit pousset ses cailloux blancs sur le chemin du retour. Contrairement à l'enfant du comte de Perrault, Clotilde aurait voulu se perdre dans les bras du méchant loup, ne jamais rentrer chez elle. Soulevant le jean d'Étienne posé sur son pull ou ses chaussures, combien de fois aurait-elle voulu qu'il lui dise « Reste ». Elle, le corps encore engourdi de plaisir, penchée en avant pour retrouver son soutien-gorge, l'observant sous le rideau de ses cheveux blonds. Lui, allongé, nu, la peau dorée, rallumant son pétard dans un geste à la fois gracieux et désinvolte. L'absence dans son beau regard, un sourire énigmatique sur les lèvres. À quoi pensait-il? À qui? Il a fini par poser les yeux sur elle au lycée, après avoir traversé ses années collège sans la calculer. À peine un salut prononcé entre les dents quand il la croisait. Et puis l'entrée en terminale. 2 mois passent. Elle réalise qu'il la voit enfin. S'attarde sur elle. La soirée d'anniversaire d'un pote, un 3 novembre. Étienne sera là. Étienne sera là. Il ne prend pas le temps de séduire Clotilde. La drague, il ne connaît pas. Il ne sait pas dire de jolis mots, s'en fout. S'approche d'elle et l'embrasse à pleine bouche. Zombies des cranberries dans les enceintes, et tout le monde qui chante à tue-tête autour d'eux. In your head, in your head. Voilà. Son rêve de petite fille se réalise. Ils couchent ensemble le premier soir dans la chambre d'Étienne. Pourquoi attendre? Qui a dit jamais le premier soir? La vie est bien trop courte. Le prince a la laine chargée d'alcool, mais ainsi va la vie. Les pantoufles mauves à paillettes, ça fait longtemps que Clotilde les a refourguées dans un vide-grenier. Les souvenirs, c'est comme les armoires. On finit par se débarrasser de ce qu'il y a dedans. Clotilde a 17 ans, mais elle a déjà compris cela. C'est une vieille jeune fille. Elle ne se fait aucune illusion. La seule chose qui l'obsède, c'est Étienne Beaulieu. Même si, au fond, elle sait qu'un jour, elle finira par se désintéresser, même de lui. C'est la première fois que je prends mon pied. Étienne répète toujours cette phrase à Clotilde, comme une ritournelle. Pour Clotilde, cette première fois a la saveur de l'amour. Une autre crampe. Clotilde se tord de douleur. Non, non, non. Ce n'est ni l'endroit ni l'heure, ce n'est pas possible, il est trop tôt. Clotilde tente de renégocier avec son sommeil. 1, 2, 3, je me réveille. Elle appuie sur l'interrupteur. Du sang partout. Elle voudrait crier. Papa, maman, au secours! Mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle se lève, va dans les toilettes. C'est terminé. Il va falloir tout recommencer de zéro. La mèche de la bombe à retardement a fait pshhh. Clotilde retire la laisse et les draps, traverse le couloir, lessive, javel, machine à laver à 90 degrés, retourne dans sa chambre. Elle prend une douche. Elle n'a plus mal. Une envie de pousser qu'elle retient. Pas ici. Elle pleure. Pas parce qu'elle est en train de perdre le fœtus et Étienne Beaulieu, mais parce que ce sont ses derniers rêves qui s'en vont dans un siphon. Touchée, coulée. Elle enfile une vieille robe noire et moche, un truc qu'elle avait acheté il y a 2 ans parce que ça faisait danseuse et qu'elle n'a jamais porté. Elle marche dans le jour qui se lève, pas un chat dans cette ville pourrie. Ses pompes sont trempées par la rosée du matin. Elle fait les choses avec un automatisme qui évoque les morts vivants du clip de Michael Jackson, ou ces films pourris qu'elle n'a jamais aimés, où les filles fragiles et pâles, en bonnet de coton, robes longues et sabots, pleurent sur leur sort tandis que leurs hommes boivent des alcools forts en se bidonnant. Elle revoit Étienne sur la plage de Saint-Raphaël, la fille blonde allongée sur lui. Elle n'a plus de crampes. Clotilde s'accroupit, expulse dans un fossé. Aucune douleur. Elle ne regarde pas. Ça ne respire pas. C'est mort. Parce que ça a décidé d'être mort, de sortir tout seul, de la lâcher, de ne pas avoir envie d'elle. Elle n'a jamais désiré être mère. À 18 ans, qu'il voudrait. Elle a juste voulu retenir Étienne, cloué au pilori. Qu'il se transforme en papa poule. Que l'heureux événement opère un changement radical chez lui. Qu'il devienne docile et prévenant. Un gentil toutou qu'elle aurait fini par détester. Haïr même. Clotilde se mouche dans sa robe de danseuse. N'importe quoi, ma pauvre fille. Heureusement que ça t'arrive. Qu'est-ce que tu aurais fait d'un chiard? Par contre, il va falloir te venger, et pas qu'un peu. Lui pourrir la vie. Sinon, ce serait trop facile. Elle rentre chez elle. Il est 7 heures. Elle s'allonge sur son matelas nu, enroulée dans un plaid. Elle somnole jusqu'à 9 heures. En bas, elle entend la voix de ses parents, le bruit de la vaisselle qui s'entrechoque. Il faut aller travailler, il faut aller travailler, il faut aller travailler. Elle est épuisée, elle saigne encore. Le retour des règles, le retour à la vie normale. Elle n'a pas vu de médecin, pas d'échographie ni de monitoring. Personne n'a jamais su. Elle a lu un bouquin sur la grossesse comme on découvre un manuel d'histoire. Quelque chose qui arrive aux autres, mais qui ne la concernait pas. Au 4e mois, le fœtus pèse environ 200 grammes et mesure 15 centimètres. Elle a calculé qu'elle était tombée enceinte mi-avril, un mercredi après-midi, le jour des enfants. Pas du tout un accident comme elle l'a prétendu. Elle avait tout prévu. Percer le bout du préservatif avec l'ongle de l'index, aussi tranchant que la lame d'un canif. Elle se souvient du jour où elle a fait un test de grossesse. 2 barres oui, 1 barre non. Elle a exulté, assise sur la cuvette des toilettes en découvrant le résultat. Étienne est à moi. Clotilde reprend une douche, enfile une autre robe qu'elle boutonne par devant quand elle s'aperçoit qu'elle a oublié de se bander le ventre. Opération qu'elle exécute depuis environ 1 mois. Elle a encore le ventre arrondi d'une femme enceinte. Pourquoi ? Combien de temps ? Ses pensées sont interrompues par sa mère qui frappe à la porte de sa chambre. « Ma chérie, le grand-père de ton ami est mort. »« Je n'ai pas d'amis, » pense Clotilde. « Les filles, je les déteste. »« Mon fantasme, c'est d'être proxénète et de les mettre sur le trottoir pour qu'elles me rapportent un maximum de fric. » La vérité, c'est que je voudrais taper le carton avec d'autres mâles pendant que mes poules tapineraient. La vérité, c'est que je n'aime pas être une fille. Quel grand-père ! Quel ami, maman ! La petite brune, le facteur, Pierre Beau, il s'est fait écraser par un camion, le pauvre homme. Clotilde se retient à la porte. Ça veut dire qu'Étienne va rentrer plus tôt que prévu. Demain, il sera là. Demain, il lira ma lettre. Peut-être même aujourd'hui. C'est arrivé quand ? Hier après-midi. Une heure plus tard, comme chaque matin depuis le 1er juillet, Clotilde dresse les tables, ajuste les nappes, vérifie la propreté de la vaisselle. Les premiers clients débarquent à midi pile, et à 14h30, tout le monde a terminé de se restaurer. Pendant le déjeuner, certains clients parlent de l'accident, le facteur en charpie, le camion qu'il n'a pas vu arriver. Clotilde a une coupure l'après-midi et reprend à 18h pour préparer la salle du soir. Pendant sa pause, elle s'allonge souvent sur les pelouses de la piscine municipale. Mais aujourd'hui, elle passe par la bibliothèque et consulte discrètement des livres sur la grossesse. Elle finit par trouver ce qu'elle cherche. L'utérus a besoin de temps pour retrouver sa taille initiale après une fausse couche ou un accouchement. La ceinture abdominale est déformée et la peau du ventre distendue. Il faut compter plusieurs semaines pour retrouver sa ligne. Clotilde n'a pas du tout l'intention de retrouver sa ligne. En sortant de la bibliothèque, elle avale, sans les déguster le moins du monde, deux pâtisseries. Elle réalise qu'elle a 2 heures devant elle. Elle revient dans le parc de la bibliothèque et s'allonge sur un banc situé sous un grand sapin. Il n'y a personne. Les balançoires sont désertes. L'air est chaud. Elle a soif. Elle ferme les yeux. Pas la peine d'être plus précis. Cette histoire est déjà finie. Tais-toi, la chanson. Clotilde revoit Étienne et la fille sur la plage à Saint-Raphaël. C'était quand déjà ? Elle compte mentalement. 3 jours. Elle se remémore le jour où le grand-père de Nina Beau a fait irruption dans la cour du collège pour la frapper. Elle serait morte de honte si ses parents lui avaient fait un coup pareil. Elle aurait préféré disparaître plutôt que de retourner au bahut. Nina, son grand-père écrasé. Étienne, forcément dévasté. Tout ce qui touche à sa meilleure amie le rend malade. Il n'y avait qu'à voir son air ce jour-là, quand le vieux a dévissé la tête de sa petite fille. Étienne est resté comme 2 ronds de flanc, blanc comme un linge. Clotilde regarde le ciel. Se fait l'effet d'un sac vide. Un sac dont un voleur aurait dérobé tout le contenu. Elle sent ses larmes couler, ferme les yeux. Se souvient de sa tête quand, en mai dernier, juste après l'amour, elle lui a dit qu'elle était enceinte. Étienne a gémi. Oh la merde, c'est la merde! Pendant le service du soir, elle regarde sans cesse dans la rue pour voir s'il est là. S'il passe, s'il la regarde. Elle espère qu'il viendra la chercher, lui faire une surprise. Elle ne parvient pas à décrocher son regard des 3 grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Le patron finit par lui demander si elle attend quelqu'un. Clotilde l'envoie balader. En sortant, elle fait un détour par la rue où vivent les Beaulieu. Elle ressent un violent choc à la poitrine lorsqu'elle voit la voiture familiale garée devant chez eux. Ils sont rentrés. Pas de lumière dans la chambre d'Étienne. Est-il sorti après avoir découvert sa lettre ? L'attend-il devant chez elle ? Elle fait demi-tour et longe les rues, pas très rassurée. Et s'il cherchait à se débarrasser de moi ? Clotilde passe devant chez Nina en baissant la tête et pressant le pas. Pas âme qui vive. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Où peuvent bien être les 3 ? Où se cachent-ils ? Où consolent-ils Nina ? Il est presque minuit lorsqu'elle arrive chez elle, à bout de force. Et toujours personne en vue. Étienne a-t-il lu sa lettre ? À moins qu'il ait reconnu son écriture sur l'enveloppe. Dans ce cas, comme tous les lâches, il a peut-être reporté le moment de l'ouvrir. Peut-être même l'a-t-il jetée, déchirée sans savoir ce qu'elle contenait. Clotilde monte dans sa chambre, la mort dans l'âme. Reste longtemps à guetter un signe, un mouvement, une présence dans la rue. Rien. Elle ne prend pas la peine de passer par la salle de bain, ni de se déshabiller. Elle s'allonge sur son lit et s'endort aussitôt. Dimanche 14 et lundi 15 août. Deux jours de repos. L'angoisse absolue. La Comelle est vide, écrasée de chaleur. Tous les commerces sont fermés, rideaux baissés. Seule la piscine municipale est ouverte. Elle n'y mettra pas les pieds. Avec son gros ventre vide, elle se trahirait. Elle refuse de sortir. Reste chez elle à attendre un coup de téléphone ou une visite. Sa mère s'inquiète, la trouve soucieuse. Tente de la faire parler, en vain. Lui propose d'aller passer ses deux jours de repos où elle le souhaite. Et si on réservait une chambre dans un petit hôtel du côté de Valence? Ton père a repéré un truc sympa, avec massage et piscine. C'est à 2 heures de route. Non, mais allez-y, vous. On ne va pas te laisser toute seule, ma chérie. Si, j'en ai envie et besoin. Je vais commencer à faire du tri avant de déménager. Elle est inscrite à la fac de Dijon, management du sport. Avec un 19,5 au bac, elle sera la meilleure de la promo. La meilleure en conneries, oui. Elle n'ira pas à Dijon, ni là ni ailleurs. Elle partira loin. Comme elle avait prévu de le faire au cas où Étienne les refuserait, elle et l'enfant. À présent, il n'y a plus d'enfant. Alors même s'il pense qu'elle est enceinte, que lui reste-t-il à faire? Son ventre finira bien par fondre comme neige au soleil et Étienne la quittera pour toujours. Elle tourne en rond dans la maison. Plus de projets, plus d'avenir, plus d'Étienne Beaulieu. Elle se goinfre pour ne pas perdre de poids, avale des tranches de pain couvertes de sauce ou de pâte à tartiner. Le téléphone sonne. Étienne, enfin! Ce n'est qu'une copine du lycée.
L'enterrement du grand-père de Nina Beau, c'est mercredi. Tu vas y aller?
Oui, s'entend-elle répondre.
Comment tu vas t'habiller?
Quelle conne! On va pas au Club 4, ni à l'élection de Miss France. J'ai raison de penser que les filles, il faudrait toutes les mettre au pilon. Je sais pas.
Il va faire chaud.
Sûrement.
Ça va être tellement triste.
L'autre continue à soliloquer. Clotilde ne l'écoute plus. À présent, elle en est sûre. Dans 3 jours, elle va le voir. L'idiote a raison au fond. Comment va-t-elle s'habiller, se maquiller, se coiffer? Il faudra tout faire pour sembler naturel. Clotilde revient à la conversation quand l'autre lui demande
« T'as des nouvelles d'Étienne ?»«
Oui, » ment Clotilde. « Il me téléphone tous les jours. Il est rentré plus tôt que prévu pour consoler Nina. C'est dur pour elle. »
« Ma pauvre, tu dois être mal pour eux. »
« Tellement. Je te laisse, il y a quelqu'un qui frappe en bas. Ça doit être Étienne. » Clotilde raccroche. Le mardi 16 août, elle prend son service la mort dans l'âme. Le patron lui signale qu'elle a vraiment mauvaise mine. « T'aurais dû profiter de ton repos pour prendre un peu le soleil ?» Clotilde ne répond pas, plie les serviettes de table en regardant par la fenêtre, des fois qu'il viendrait. Il est rentré depuis 3 jours et elle n'a aucune nouvelle. Quel enfoiré! Paraît qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Tu m'étonnes, un pas minuscule. La journée s'étire, les clients sont chiants. Elle a envie de tout envoyer balader. Avant de partir, Clotilde prévient. « Demain, je pourrai pas venir, j'ai un enterrement. » Ah, le pauvre facteur. Mais ça va pas durer toute la journée, cet enterrement. Pour moi, si. Son patron grimace, d'un air de dire « Et comment je fais, moi ?» Mais il n'insiste pas. Il n'a jamais eu de serveuse aussi débrouillarde. Bien en salle, bien en caisse, bien avec la clientèle. S'il devait la noter, en dépit de ses étranges sautes d'humeur, Clotilde Marais aurait tout bon. Si ça ne tenait qu'à lui, il la garderait à l'année. Mais il ne se fait pas d'illusions. La gosse restera pas chez lui. Même avec un salaire au-dessus du SMIC, des tickets restaurants et une prime de fin d'année, elle a autre chose à faire que de servir des pizzas toute la sainte journée. Après son service, Clotilde rentre directement chez elle, en espérant le croiser. Elle ne saigne plus. Elle défait son bandage et s'observe de profil dans un miroir. Son ventre n'a pas bougé. Comme Clotilde est fine, il ressort d'autant plus. 3 jours qu'elle l'a perdu. Une fille ou un garçon? Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Elle se fait un masque à l'argile et hydrate son visage. Passe du kohl noir au bord de ses yeux. Comme ça, demain matin, l'or bleu ressortira sans qu'elle ait l'air maquillée. Elle se couche en passant et repassant mentalement ce qu'elle devra faire au réveil. Se laver les cheveux avec du shampoing aux œufs, les sécher légèrement en appliquant un baume sur les pointes, recourber ses cils, anti-cerne, une touche de blush, du brillant à lèvres légèrement irisé, l'estomper avec un mouchoir en papier, se crémer le corps, se vaporiser un léger parfum sur les tempes et les poignets, enfiler un t-shirt en coton gris, le pantalon qui va avec, décontracté, chic et discret, et des sandales noires à lanière. Bien penser à regarder si sa pédicure est parfaite. Rien de plus tue l'amour que la corne sous les pieds. Tue l'amour. Elle répète à voix haute pour elle-même. Tue l'amour. Que fait Étienne? Où est-il? À quoi pense-t-il? A-t-il fini par ouvrir cette satanée lettre? Quand l'a-t-il reçue? Se venger. Et trouver comment? Vite, très vite, avant qu'il sache qu'elle n'est plus enceinte.